Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone de saison 5, épisode 43 de ce vendredi 8 mars. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le 8 mars, date limite des transactions? Ben oui, c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui en long et en large chez les Canadiens et à travers la Ligue nationale de hockey. Avec les gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, c'est le Guillaume.
Salut JR!
Nous avons Simon, Olivier et Lorange, l'homme qui collecte les points bonis sur la ligne d'avion qui est avec nous. Salut Simon-Olivier.
Salut Jérémy.
Ça n'a pas été facile à dire.
Non, c'est ça a été une livraison difficile, effectivement,
ben,
écoute, mais...
Écoute, Antoine Roussel qui est là, c'est là Antoine.
Salut la gang.
Et là, je sais pas si
faut mettre les gens en contexte sur le parcours du combattant.
Attends. Juste dire, tout le monde est en studio. Bravo les gars.
Oui. Yeah.
Hey, ça c'est le fun. Bon, OK, là on revient. Simon, Olivier, Lorange, raconte-nous ta journée. Comment ta journée a commencé? T'étais où? Et comment t'as abouti jusqu'ici?
Mais là, je sais que là, je vais faire beaucoup de jaloux. J'étais à Raleigh, en Caroline du Nord.
Oh,
et pour les gens qui sont jamais allés, en fait, Antoine le sait très bien.
De toute beauté.
C'est au milieu d'un champ, l'aréna. Et mon hôtel était juste à côté. Alors, je vivais ma meilleure vie. Mon cadran a sonné à 3h25. Mm-hmm. J'ai pris l'avion. J'ai pris deux avions pour m'en venir à Brossard pour la date limite des transactions. Et comme je disais avant l'émission, les Canadiens nous ont fait quand même un cadeau en faisant une transaction, et c'était une grosse. Alors, ça m'a essoufflé un peu de vie, puis je commence à être fatigué un petit peu.
Sur l'adrénaline, tu sais, là, t'es sur l'adrénaline, on le sait palpable.
Mais je pense qu'Antoine s'est réveillé à peu près en même temps que moi, parce que lui, il faisait de la télé aujourd'hui. Fait qu'écoute, il y a juste Guillaume, finalement, qui...
T'es parti du Saguenay pour t'en
parler? Parti hier soir, puis je t'ai entendu à la radio hier, ça m'a tellement donné le goût d'appeler, mais je suis encore de ces petits fébriles-là qui... La prochaine fois, je vais
ton plaisir, mon ami.
Mais effectivement, t'es sur la route hier soir. Arrivé ici vers minuit et demi, puis j'ai eu de la misère à dormir. Je sentais qu'il allait avoir une grosse journée, puis on en a eu une belle, puis ça a été quand même comme je l'attendais. Un bon échange du Canadien, ça a bougé dans la Ligue, et j'ai tellement hâte d'avoir vos opinions sur certains dossiers qu'on puisse disséquer tout ça.
Moi, je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, dans un premier temps, on va se parler de ce qui s'est passé chez les Canadiens, mais on va aller faire un tour à travers la Ligue nationale de hockey. Quelle équipe sort gagnante de cette date limite des transactions? On va se parler des Golden Knights de Vegas qui...
Parlant de gagnant.
Je veux pas dire font rire d'eux autres sur les réseaux sociaux, mais tout le monde dit « Ah, mais Gondon, Mark Stone s'en va, sa liste des blessés à long terme. Va-tu sortir encore une fois à l'ouverture des séries de fin de saison? » Ou c'est pas facile comme situation parce que Tampa Bay a déjà fait ce genre de situation-là avec Kucherov, on s'en souviendra. Là.
Chicago aussi.
On va se parler de tout ça. On va se parler des Pingouins de Pittsburgh qui connaissent des moments difficiles. Jake Gunzel qui a quitté les Pingouins de Pittsburgh pour aller avec les Hurricanes de la Caroline. Mais comme débutons avec écoute, ce ménage à trois est terminé chez le Canadien de Montréal. C'est terminé. Jake
de quoi,
Allen.
De quoi on va parler?
Je sais
plus. On va parler pour le reste de la saison.
Je sais pas. Alléluia.
Je suis peiné. Jake Allen, donc, qui quitte, s'en va du côté des Devils New Jersey. Vous mentionnez que c'est 50% de son salaire qui est retenu par le Canadien de Montréal, contre un choix de troisième ronde. Qui peut devenir un choix de deuxième ronde si Jake Allen garde 40 matchs la saison prochaine? J'ai entendu Kent Hughes dire aussi participation aux séries de fin de saison.
Et si son équipe, les Devils ou une autre, c'est écrit comme ça, participe aux séries de fin de saison. Alors, si Jake Allen se fait échanger l'année prochaine par les Devils, alors il faut que sa nouvelle équipe participe aux séries.
Et qu'il joue 40 matchs.
Si
40
j'ai
matchs.
Bien compris, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, ça veut dire que il faut que les deux choses soient requises pour que ça fonctionne.
Exact. Deux prérequis pour avoir un choix de deuxième ronde. OK, je fais un tour de table. Guillaume, bonne transaction?
Oui, absolument. Ne serait-ce que parce que moi, dans ma tête, à la base, mettre fin au ménage à trois, ça commençait à devenir quand même important parce que Kaden Primo évoluait quand même de façon très encourageante depuis le début de l'année, mais c'était vraiment à tâtons. C'était, on le sait, là, il y avait un départ à peu près aux deux, trois semaines. C'était vraiment insuffisant pour où il en est dans son évolution. Donc, le simple fait de sortir Jake Allen des livres, je pense que Primo et Montembeau, ils gagnent. Ensuite de ça, d'aller chercher un choix de troisième tour, je dis oui, il y a de la rétention de salaire pour... l'an prochain, Jake Allen va compter pour près de 2 millions de dollars. C'est pas rien. Mais quand même, je pense pas que le Canadien, l'an prochain, prévoyait avoir besoin de chaque dollar pour tenter de gagner la Coupe Stanley. Donc, ça m'apparaît un prix quand même raisonnable à payer, sachant que tu obtiens un choix de troisième tour. Je crois pas vraiment que ça puisse devenir un choix de deuxième, mais juste un choix de troisième tour, c'est quand même pas vilain.
Simon-Olivier?
Ben, en fait, je suis d'accord avec tout ce que Guillaume a dit, comme c'est souvent le cas, mais je vais juste renchérir sur le choix au repêchage. Je sais pas si les gens qui ont suivi le marché, c'était vraiment un marché 100% de vendeurs cette année. Là. Il y a eu une poignée de choix de premier tour. Tu sais, il y a des années où les choix de premier tour, ça s'échange comme des bonbons. Là. C'est vraiment, il y a des surenchères, c'est des marchés de vendeurs. Là, cette année, c'est un marché d'acheteurs. Et écoute, des joueurs qui ont été échangés, qui ont des choix de 4e, 5e, 6e tour. Je donne un exemple. Matt Dumba, le défenseur qui a été échangé des Coyotes de l'Arizona au Lightning de Tampa Bay. Dumba et un choix de 7e tour ont été échangés contre un choix de 5e tour. Donc, c'est pratiquement donné, là. Alors que le Canadien cherchait un choix de 3e tour, dans les circonstances, c'est très, très bien. Alors que, tu sais, qu'il aurait pu perdre Allen contre moi, je pense que je n'excluais pas que ce soit contre des considérations futures.
Et le pire, c'est au lieu de perdre Allen, c'est qu'il aurait pu être obligé de le garder aussi.
Exact.
Et ça aurait été encore pire parce qu'on aurait poursuivi ce ménage à trois qui a été problématique chez le Canadien, Antoine.
Mais en fait, je sais pas, tu sais, pour surenchérir sur ce que tu dis, je sais pas si ça aurait été vraiment problématique parce qu'il a encore un an de contrat. Puis la preuve, il y a des équipes qui appelaient pour Jake Allen. La preuve, il a été échangé contre un choix de troisième ronde. Ça aurait pu être fait au repêchage ou l'année prochaine. C'est bien évidemment pas une situation facile à gérer pour une équipe, pour des joueurs. Mais Samuel Montembeau s'en est quand même bien tiré. Je trouve cette saison, ça lui a permis de tranquillement rentrer dans un rôle de gardien numéro un. Chose que au début de la saison, j'étais pas prêt nécessairement à dire ça, mais on s'enligne tranquillement vers ce statut-là. Et maintenant, avec la voie grande ouverte, ben on peut pratiquement dire qu'il a l'opportunité, et c'est à lui de saisir la chance, de prendre la pole position et d'avoir le poste de gardien numéro un.
Ben c'est les deux, en fait, parce que ça va aussi donner à Guylaine Primeau un vrai rôle de numéro deux. Guylaine Primeau va pouvoir jouer plus ou moins un match par semaine.
C'est clair, t'as tout à fait raison, Guillaume.
Joue trois matchs dans la semaine, t'en donnes un à Primeau, deux à Montembeau, puis tu vas avoir 20 matchs, exact, tu vas avoir un échantillon.
Puis après ça, t'es capable de prendre une décision. Mais sur le retour, moi, ce que j'aime, c'est que Kent Hughes, il a pas bragué, il a pas bradé son joueur comme des considérations futures, comme tu le disais. Il a voulu son prix, il l'a obtenu. Puis on entendait circuler des bruits de couloir où c'était un choix de troisième ronde qu'on voulait. On l'a obtenu, puis ça fait longtemps qu'on entend ça. Donc, le Canadien a tenu son bout, puis ce que ça dit, c'est que Kent Hughes, quand il fixe un prix, il fait pas de solde. Lui, c'est pas Dollarama, c'est pas chez Winners, c'est le plein prix, ou sinon, tu l'as pas.
Donc, maintenant, la situation est la suivante. Là, en point de presse, Kent Hughes a dit, écoutez, c'était pas notre choix nécessairement le ménage à trois, c'est que le marché n'était pas là. On a eu des conversations, mais le marché n'était pas disponible pour faire en sorte d'échanger. Au début, on s'est dit, si on n'a pas Montembeau qui est signé, est-ce qu'on peut faire confiance à Kaiden Primeau? On pouvait pas, c'est pour ça qu'on gardait trois gardiens. Un moment donné, on signe Montembeau. Là, on s'est dit, OK, Jake Allen peut devenir disponible. Le marché n'était pas là nécessairement. Mais Simon Olivier, c'est pas tant ça qu'on a appris, ou de façon différente, peut-être, dans le point de presse des Devils New Jersey.
Ben, c'est ça, il y a une petite nuance à cette histoire-là. Puis c'est pas en contradiction avec ce que Kent Hughes a dit, nécessairement, vous allez voir. Donc, en fin d'après-midi, Tom Fitzgerald, qui est directeur général des Devils, a fait un point de presse virtuel, a répondu à plusieurs questions, parce qu'il y a une grosse journée, lui, il a échangé Tyler Toffoli, il a échangé de Colin Miller, le défenseur aux Jets de Winnipeg, il a acquis Allen, évidemment, et Kaapo Kakkonen, le gardien des Sharks de San Jose. Donc, il acquiert deux vétérans gardiens de but et il échange son meilleur buteur. Tyler Toffoli a 26 buts cette saison. Donc, il avait reçu beaucoup de questions. Et il a plugué dans une de ses réponses que les Devils étaient sur la liste de non-échange de Jake Allen. Okay. Jake Allen, son contrat pour la saison 23-24, avait une liste de 7 équipes auxquelles elle n'allait pas être échangée. Cette liste-là passe à 3 équipes pour la saison 24-25, qui est la dernière de son contrat. On savait pas, personne sait, ces listes-là sont pas publiques. Et il a dit, bon, mais on n'était pas sur cette liste-là. Puis j'ai demandé une précision, j'ai dit, j'ai-tu compris la bonne affaire? Il dit oui. Et après ça, j'ai dit, ben, tu sais, vos gardiens ont de la difficulté depuis longtemps, Jake Allen est disponible depuis longtemps, pourquoi pas l'avoir fait avant? Et il a carrément répondu, ben, à cause de sa liste de non-échange. Il dit, nous, on s'est renseigné il y a longtemps sur sa disponibilité, puis on nous a répondu qu'il y avait une liste de non-échange sur laquelle on était. Cette clause-là a été levée dans les derniers jours, dans les dernières heures, et c'est ce qui a permis la transaction. Maintenant, est-ce que Kent Hughes a approché Jake Allen seulement récemment, ou ça fait longtemps? Moi, ça c'est le bout où on ne sait pas. J'ai pas réussi à avoir cette information-là encore. Mais si effectivement, tu sais, je veux dire, une clause de non-échange, puis Antoine, je ne sais pas s'il y en a déjà eu ou il maîtrise mieux cet art-là que moi. Mais tu sais, je pense que c'est justement fait pour qu'un DG, chaque fois qu'il reçoit un téléphone d'une équipe qui est sur la liste, ben, il commence pas à écœurer son joueur pour dire, ouais, mais là, t'es-tu sûr que ça te tente encore? Tu sais, j'imagine que pour avoir des bonnes relations de travail, il faut la respecter. Fait que si les Devils appellent, disons, en décembre, ben peut-être que Ken va pas tout de suite à Jake pour dire « Ah, ben Jake, ça te tente-tu d'aller chez les Devils? » Mais éventuellement, la situation évoluant, on peut imaginer que aussi, Allen commence à être tanné, puis il l'a un peu dit dans les entrevues à TVA Sport, puis excusez-moi, à TSN, qui en avait soupé de la situation. Fait que là, la conversation change, puis là, tout à coup, peut-être que ça le dérangerait moins d'aller chez les Devils, puis c'est visiblement ce qui est arrivé parce que l'échange a eu lieu.
Antoine, comment ça marche? Est-ce que...
Ben, moi, j'en ai déjà eu une, puis clause de non-échange, puis je l'ai eu quand j'ai eu mon contrat avec Vancouver. Ouais. Puis à ce moment-là, dans la première année, j'avais 12 équipes, puis par la suite, je pense, si je ne m'abuse, ça tombait à 8 équipes. Puis moi, je voulais pas jouer en Californie, fait que j'avais mis toutes les équipes de la Californie. J'avais mis quelques équipes, dont l'Arizona, que je voulais jamais me faire échanger.
J'entends quelqu'un qui est en train d'écouter dire « Pourquoi tu veux pas jouer en Californie? Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait chaud, on est bien. Pourquoi tu veux pas jouer en Californie? »
Non, j'aimais pas le marché. J'aimais juste pas le... Dans le fond, c'est parce que quand tu penses à des équipes, c'est juste au niveau de logistique, c'est fatigant. Tu joues pour les Sharks de San Jose, t'arrives tard chez toi le soir. Exemple, il y a à l'aéroport, il y a un couvre-feu. Fait que souvent quand tu reviens, fait que t'es pas capable d'atterrir dans le centre-ville. Faut que t'atterrisses à 40 minutes. Donc c'est toujours, t'es toujours en train de rechercher du sommeil. C'est fatigant. Tu joues à LA, t'es toujours pris dans le trafic. Tout le temps. Les gars, ils conduisent entre 40 et 50 minutes les journées de match pour aller au match. Ça n'a pas de bon sens. Après ça...
Anaheim, c'est dans le même marché.
Et Anaheim, c'est la même problématique. Même exact, la même problématique. Fait que okay. Ça m'intéressait pas de vivre cet aspect-là avec ma famille parce que j'avais déjà vu des coéquipiers, notamment Sean Arkoff. Lui, il avait engagé un chauffeur pour conduire son gars aux pratiques parce que sa fille puis sa femme, là, il allait à d'autres pratiques à l'autre. C'est-à-dire, il m'avait expliqué la situation, puis dans ma tête, c'était un gros non, merci. Si je suis capable de choisir de pas aller là, d'éviter
ça. OK, c'est une parenthèse maintenant. Merci. Est-ce que le DG arrive et t'appelle ou appelle ton agent à chaque fois qu'il y a un club qui peut être sur cette liste de non-échange?
Ben absolument, parce que pas chaque fois. Je pense qu'on sonde le terrain quand on est proche d'une transaction. Puis, il y a plusieurs philosophies par rapport à ça. Pour moi, quand tu as une clause de non-échange, tu dois la respecter. Va pas déranger ton joueur. Hein. On pense que peut-être... Puis, c'est malheureux. Et moi, ça m'est arrivé parce que les Coyotes étaient sur ma liste de non-échange. Ça m'intéressait pas. Puis, je vous l'ai dit souvent, dans un désert, on meurt. C'est aussi simple que ça. Puis moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je suis allé jouer dans une équipe qui avait pas nécessairement de visibilité extérieure. Puis tu peux bien jouer en Arizona sans collecter nécessairement des points. Au final, si tu fais pas de points en Arizona, c'est fini. Mais moi, pourquoi je voulais pas aller là, c'était pour ça. Puis finalement, c'est toujours un petit peu de la manière du serpent, hein, ce qui se languit, qui s'en vient. Ça. Et moi, on avait. Puis je pense que je vous l'avais déjà conté. On avait appelé mon agent, puis m'avait parlé de la situation, m'avait préparé, avait comme mis la graine pour que ça grandisse, puis que je sois prêt s'il fallait que je prenne une décision. Puis à ce moment-là. Ben je l'ai pris par la suite parce que on te fait comprendre que tu veux vraiment rester avec une équipe qui veut pas de toi. Fait que les équipes fonctionnent un petit peu comme ça. Mais quand on regarde la situation de Calgary avec Jacob Markstrom, où on est allé le voir, il y a une clause de non-échange lui aussi. On devait probablement l'échanger aux Devils. Puis finalement l'équipe va mieux, on le garde. Mais là ça crée la bisbille avec un joueur. Tu sais, moi, si tu m'arrives, tu me proposes une transaction, je dis oui, puis finalement, je reste, puis tu connais le contexte de l'équipe, c'est quand même assez dévastateur. Là. Puis là, tu perds, la loyauté de ton joueur, tu perds
la confiance
tout simplement. Ouais. Donc, c'est pas idéal, c'est pas une situation qu'on recommande. Puis écoute, Conroy l'a appris à ses dépens.
Moi, je veux juste savoir une chose, c'est que en fait, est-ce que Ken Hughes négociait avec Jake Allen? En fait, est-ce qu'il laissait le temps passer pour qu'à un moment donné, Jake Allen dise « Oui, c'est beau, tu peux m'échanger aux Devils New Jersey, Guillaume? »
C'est
une torieuse, ça, hein?
C'est une torieuse. Oh.
Martin dirait que c'est une question pour Ken.
C'est une question pour Ken.
mais c'est impossible. Sans farce. Peut-être au début de la saison, oui, mais quand t'es arrivé aussi loin que ça, je serais surpris que cette discussion... Tu sais, que là, c'est arrivé parce qu'on paniquait. Moi, pour moi, les New Jersey, ils ont paniqué complètement aujourd'hui. Ils savaient plus quoi faire. Puis Fitzgerald, s'ils font pas les séries, ce qui est fort probable, pour moi, sa job doit être en danger pour qu'il fasse.
Il n'y a aucune cohérence. Il n'y a aucune cohérence dans la journée.
On a voulu, tu sais, faire une refonte un petit peu. On a échangé Toffoli. On a essayé de garder le noyau jeune. Puis on fait un petit peu en mouvement une mini reconstruction ou on rachète de l'équipement chez Rona à ce moment-là.
OK, on maugrait ici du côté de Simon-Olivier Larange.
Ben, je sais qu'on fera pas une heure sur les Devils de New Jersey parce que c'est pas notre point d'intérêt, mais moi aussi, j'étais complètement ébahi par ce qui se passait chez les Devils parce que ça me semblait complètement contradictoire d'échanger Tyler Toffoli et d'aller chercher Jake Allen à la date limite dans la même journée. Mais en réalité, tout ça va ensemble. C'est-à-dire que Fitzgerald a expliqué, Toffoli, il y a eu des discussions pour une prolongation contractuelle, les deux parties étaient trop loin. Toffoli voulait plus d'années que ce que les Devils offraient, il voyait pas ça arriver, puis s'est dit, ben tant qu'à faire, tant qu'à le perdre. Il a vu où est l'équipe au classement, si on sont à plusieurs points des séries, il dit, tu sais, les probabilités sont pas de notre côté. Fait que bref, il a voulu maximiser sa valeur en allant chercher un deuxième et un troisième choix, ce qui n'est pas énorme dans le marché actuel, c'est ça que c'est. Ensuite, ces deux gardiens de but, Nico Daz et Akira Schmidt, ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés cette saison. Et pour un temps, il est vu dans la Ligue américaine. C'est là qu'il aille un peu se refaire, si on veut, se réparer et revenir plus tard. Et aussi, les deux, s'ils continuent de jouer, ils vont dépasser le seuil de match minimal pour qu'ils soient obligés de les passer au ballottage l'année prochaine. Fait que tout ça est comme imbriqué ensemble. Alors, puis ce qu'ils voulaient faire aussi, c'est d'avoir le plus de flexibilité, et ça, c'est ses mots exacts, pour aller chercher le gros poisson l'été prochain.
Oh.
Le gros poisson, ben, il s'appelle probablement Jakob Markstrom, ou Jussi Saroche, ou Linus Ullmark, mais c'est un de ces gardiens de but-là, et il dit qu'avec Jake Allen et ce gros poisson-là, il se verra avoir un des meilleurs ou un des très bons tandems de la Ligue. Alors, c'est pas tant de reconstruction, parce que en défense, il y a beaucoup de ressources quand Dougie Hamilton va revenir en santé. En attaque, je pense qu'on a pas besoin de faire un exposé. Fait que si en plus on solidifie, c'est comme un petit pas de côté aujourd'hui, mais vraiment, je pense pour, tu sais, la stratégie est relativement claire, malgré qu'elle peut être insatisfaisante pour les gens là-bas.
Puis en ce sens-là, ça s'ajoute aussi un petit geste qu'on a oublié, mais la semaine dernière, dans l'échange de Chris Tanev, les Devils avaient agi comme intermédiaire pour prendre une partie du salaire. Donc, ils sont bloqués quand même 1,125 de salaire. Ils retiennent du salaire de Toffoli aussi, mais dans les deux cas, c'est pour cette année seulement. Alors, effectivement, là-dessus, ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que cet été, on retient plus de salaire et on a le champ libre pour agir.
OK, mini-torieuse.
Ça reste une drôle de journée quand même.
Minitorieuse. juste savoir une chose. Jake Allen, écoute, c'est pas Dieu le Père devant le filet, mais c'est quand même un bon gardien de but d'expérience. On a eu de la difficulté devant le filet des Devils New Jersey. Si Jake Allen est là, une semaine, est-ce que Lindy Ruff perd sa job? Antoine?
Ben, écoute, c'est...
Lindy Ruff est chez eux. Ruff, fait, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là?
Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, si je suis Lindy Ruff, je suis en furie. Mais voyons donc, ça fait des mois que je te demande un gardien de but qui fait le travail, puis finalement, on va en chercher deux dans la même journée parce que on sent la soupe chaude monter. Effectivement, moi, je serais désarçonné.
Mais en même temps, Jake Allen, cette année, ne joue pas comme un gardien. Il n'a pas livré jusqu'ici des performances de gardien qui sauveraient
pour
son entraîneur.
T'as raison. Donc, mais des fois, ça peut être un argument pour Lindy Ruff. Bon, hey, revenons à... Ça veut dire qu'on a fini officiellement de parler du ménage à trois chez les Canadiens de Montréal. Oh, ben là, ça va à peine. Écoutez, une petite froide.
Oh oui.
Attention. Oups, ça fait de la broue en plus. Oh, ouais. Attention, je vais être prêt. Oh, quel bonheur.
On dirait qu'on fait de la radio AM. Hein,
oh, mon Dieu. C'est incroyable. ça fait du bien. Et à la fin du balado, on va sacrer. Non, c'est pas vrai. Ceci étant dit, parlons des défenseurs du Canadien parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui s'en vient en défensive chez les Canadiens. On a beaucoup de défenseurs. Simon Olivier, l'homme de la situation, dans le point de presse, tu as parlé de ça avec Kent Hughes et tu as parlé, tu sais, David Savard est toujours là. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez commencer à essayer de progresser pour laisser de l'espace pour toute cette jeunesse qui s'en vient? On va écouter Kent Hughes, si tu veux bien, à ta question. On écoute les propos de Kent Hughes là-dessus.
Pour nous, de faire un échange pour créer la place, on n'est pas pressé dans le sens que ce n'est pas nécessairement un échange qui se fait au trade deadline. C'est plutôt quelque chose qui pourra se faire au repêchage ou pendant la saison. Alors, normalement, le trade deadline, c'est les acheteurs puis les vendeurs. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, on dit... Les gens l'appellent des hockey trades. On discute avec les équipes toute l'année. Si on trouve une qui fonctionne pour les deux côtés, c'est sûr qu'on l'aura faite. Mais ça ne nous empêche pas de le faire au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, ou quand on trouve une bonne échange.
Donc, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique chez les Canadiens. On ne commence pas immédiatement. J'ai l'impression que quand Kent Hughes répondait à ta question, Simon Olivier disait « Attends voir, mais qu'on arrive au repêchage ». Est-ce que je me trompe?
Ben moi, je trouve que ça a beaucoup de sens. C'est ma compréhension aussi. Et je suis pas vraiment surpris. T'sais, on avait beaucoup parlé, est-ce que Jordan Harris va être échangé? On avait même parlé de Kovacevic. Moi, je pense que ça aurait eu du sens s'il y avait une bonne offre pour Kovacevic, mais surtout voyant le marché, il n'aurait pas fait grand-chose avec Kovacevic. Mais néanmoins, c'est ça, il n'y a pas le feu. T'sais, quand on y pense, il y a Lane Hudson qui va arriver cette année, mais c'est tout. Reinbacher s'en va probablement, en fait, presque assurément à Laval, s'il arrive assez tôt pour finir la saison, parce que ça se peut qu'il reste en Europe plus longtemps. Il y a Adam Ekstrom aussi qui, je crois, irait vraisemblablement à Laval. Fait,
t'sais, puis, même Hudson pourrait arriver.
Il pourrait manquer de temps, lui aussi.
Exact. Lui aussi pourrait aller à Laval.
Non, il pourrait pas aller à Laval. En fait, il pourrait pas jouer en série à Laval parce qu'il n'est pas déjà. Il n'a pas joué à Laval là. T'sais, c'est les fameuses transactions papier, oui. Là, tout ça. Dans le fond, c'est que lui, s'il signait son contrat, disons, la semaine prochaine ou dans deux semaines, je sais pas quand est-ce qu'il a bossé.
C'est trop tard.
C'est trop tard. Fait qu'il pourrait peut-être jouer, mais pas en série. C'est la même situation pour Jaden Struble l'an passé, qui avait signé un contrat à la Ligue américaine et son contrat commençait.
Mais bon. Il pourrait jouer en saison régulière. Il pourrait juste pas jouer
en saison. En saison, il pourrait, exact.
Il pourrait, mais je pense que rendu là, le faire jouer avec le Canadien, comme on a fait avec Sean Farrell.
De toute façon, c'est ça. Hudson, comme Sean Farrell, va arriver avec un statut qui fait en sorte qu'il va pouvoir brûler. Il y a comme, si on veut gagner le droit de brûler sa première année de contrat de cette année.
Mais de quoi gagner le droit?
Est-ce que ça
agace les vétérans?
Moi, ça me pue au nez, ça, ouais. Qu'un joueur du collège qui n'a rien fait, on lui donne je vais pas dire les clés de la ville, mais qu'on lui donne une opportunité que d'autres n'ont pas nécessairement dans le but, soit de négocier un contrat avec et de le favoriser par rapport à d'autres joueurs. Moi, ça me dérange énormément. J'en parle à chaque année. Ça coïncide généralement avec le début du mois de mars.
ça n'a pas servi Sean Farrell l'an passé, parce qu'il n'a pas été très
exact.
Bon dans ses six matchs.
Le Canadien a eu la chance, probablement, de le rappeler cette saison. On ne l'a pas fait.
Il a été blessé longtemps, par exemple.
Oui, mais il reste que...
Il ne s'est pas imposé comme une... Non, pas du tout.
Tout à fait. Donc, pour moi, je trouve que souvent, on fait ça. Puis oui, pour des vétérans, moi, ça me dérange, parce que tu vois des jeunes joueurs qui travaillent fort dans la Ligue américaine, qui veulent avoir cette opportunité-là, qui ne l'ont pas forcément. Donc, on priorise des joueurs qui viennent du collège, alors que je trouve que ça met en... C'est bancal un petit peu la situation, et ça fait en sorte qu'au final, ton organigramme en souffre.
OK, mais en fait, c'est parce qu'on veut aussi que le kid signe. Si tu veux que tu signes, il faut que tu donnes un nanane. Et le nanane, c'est que tu brûles ta première année de contrat.
C'est quasiment comme un bonus de signature.
Exactement.
C'est comme ça qu'on le voit. Cela dit, quand Kent Hughes dit qu'il n'y a pas d'échange hockey, il y en a. On a vu l'Avalanche du Colorado qui a acquis Casey Middlestad contre Bowen Byram, mais le Canadien n'a pas Bowen Byram. Tu sais, dans le sens... Le Canadien n'aurait pas échangé Caden Goulet, mais après ça, ça descend. Tu sais, je pense pas que Jordan Harris, un pour un, contre un autre joueur,
jamais.
Ça aurait été un autre Jordan Harris ou un attaquant des troisième, quatrième trio. Donc, Kent Hughes reste très cohérent dans sa stratégie qu'il panique pas. Le surplus de défenseur, il va exister, mais c'est pas un problème qu'il a entre les mains présentement. Puis effectivement, avec tous les choix repêchage qu'il possède, ben, à l'approche du repêchage, ben, envoyer un défenseur, peu importe lequel, avec un ou des choix repêchage, ça fait un bon package pour une équipe qui, justement, serait prête à laisser aller un joueur plus établi ou un jeune joueur, justement, qui est déjà dans la Ligue nationale, qui est ce que recherche Kent Hughes.
OK, est-ce que le prochain repêchage va faire du Canadien un club qui va être mieux que ce qu'on voit depuis les deux dernières années, Guillaume?
Ben, si on se fie à l'historique de Hughes, oui, c'est-à-dire que Hughes se sert toujours de cette période-là pour faire vraiment des ajouts nets. Kirby Dach, l'espèce, c'était pas un échange un pour un, mais Kirby Dach et Romanov, c'était pratiquement ça. Oui, Romanov est un joueur important, mais il y avait beaucoup de solutions de remplacement pour occuper le poste de Romanov et y rendre Kirby Dach, donc un nouveau gars dans sa ligne de centre. Alors ça, c'est un ajout brut. Ensuite de ça, ben, l'an passé, deux choix pour Alex Newhook, qui est un attaquant top 9, qui rentre directement dans son top 9. Donc, il y a un historique de ça, et il va arriver au repêchage avec les mains pleines, pas tant pour le repêchage de 2024. Il y a quand même deux choix de première ronde, mais après ça, bon, t'as le choix de deuxième tour de l'Avalanche qui va être très, très tard en deuxième ronde, vraisemblablement. Deux choix de troisième. Mais en 2025,
c'est là que c'est payant.
T'as deux choix de première, deux choix de deux, trois choix de trois, deux choix de quatre. Alors, en 2025, à l'heure actuelle, ben, il y a neuf choix dans les quatre premiers tours. Alors, ça, c'est quand même également de la monnaie d'échange. Ou sinon, ben ça lui permet peut-être de sacrifier un peu plus des choix de cette année, de 24, parce qu'il sait qu'en 2025, il va pouvoir faire le plein de choix au repêchage. Donc, en ce sens-là, il arrive quand même bien équipé au repêchage.
Est-ce qu'il essaie de rattraper l'Arizona, finalement? Avec
pour le nombre de choix.
Pour le nombre de choix. Parce que,
c'est son
pour
rappeler catégorie.
Aux gens, en 2024, en première ronde, l'Arizona a un choix. En deuxième ronde, ils en ont trois. En troisième ronde, ils en ont trois. En quatrième ronde, ils en ont deux. En 2025, un choix de un, quatre choix de deux, deux choix de trois. En 2026, un choix de 1, 3 choix de 2, 2 choix de 3.
J'espère que tout le monde prend des notes à la maison.
Donc, 10 choix de 2.
Donc, 10 choix de deuxième tour dans les 3 prochains repêchages, si je calcule bien.
C'est énorme. À tel point qu'il va falloir que se transforme en joueurs potentiellement qui font une différence sur la patinoire. Puis là, on s'écarte un petit peu du sujet prévu, mais... Si tu es une équipe qui ramasse l'Arizona, c'est comme si tu ramassais en ce moment les Golden Knights puis tu les transplantais à une... je parle l'équipe qui a commencé avec les Golden Knights avec autant de choix au repêchage. Tu as la main heureuse et là, tu as l'opportunité de faire à peu près tout ce que tu veux. Donc l'équipe, si un jour elle se transfère, on parle. Salt Lake City... Le propriétaire là-bas, il est là. Oh, 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 oh. C'est la meilleure façon de commencer une dynastie
avec des choix
repêchage. Puis ils ont déjà une pas pire équipe sur la glace aussi.
Oui, clairement. Non, ils ont du talent offensif avec beaucoup de choix. Ça peut faire la différence. Mais la grande question, si on vient au marché montréalais, c'est combien de temps les gens seront patients. Parce que là, c'est encore une fois une date limite des transactions. On voit le Canadien de Montréal qui est vendeur. Combien de temps les partisans seront patients, mais surtout à l'interne, comment on évalue justement ce processus de reconstruction? On fait une courte pause pour retour. Je vais vous faire entendre Kent Hughes. Je pense que lui ici aime ça gagner. Je pense qu'il a hâte de gagner également. On écoute ça. On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode 43, en ce vendredi 8 mars avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Larange, Antoine Roussel. Les gars, la patience des partisans, elle est là pour le Canadien, la reconstruction est là. Mais aujourd'hui, en point de presse, on a posé la question à Kent Hughes en anglais. Est-ce que vous êtes, comment vous vivez ce processus de reconstruction? Avez-vous cette patience nécessaire-là? Je laisse entendre les propos de Kent Hughes.
I'm as competitive as the next person. I want to feel the highs and lows of winning and losing. That come when you're expected to compete for a Stanley Cup. So the faster that it can happen, the better off it is. I'd like to be around for it. But I don't want to do it at the expense of doing it the right way.
Donc, il dit, écoutez, on aimerait ça vivre l'effervescence d'être à la période des transactions, de connaître des matchs importants, d'être compétitif pour une Coupe Stanley. Mais tu sais, on faut pas sauter les étapes. Ça devient difficile en quelque part quand on parle, t'as plein de choix repêchage, t'as des jeunes qui sont disponibles. Ça devient difficile de pas sauter des étapes là-dedans. Pensez-vous qu'on sera assez patient ou il faut un moment donné peser sur l'accélérateur? Hier, après le match entre le Canadien et les Hurricanes de la Caroline, je disais aux gens, pour un marché comme Montréal, j'ai hâte que les gens vivent une date limite des transactions où tu vas ajouter quelque chose. Vive des matchs avant une préparation pour une série de fin de saison. Vive l'euphorie de ces matchs-là, ce qu'on vit pas depuis les deux dernières années. Est-ce qu'on sera tenté de peser un peu sur l'accélérateur, selon toi, Guillaume?
Ben, sans parler d'accélérateur, mais il y a clairement un ralentissement de la reconstruction. Donc, est-ce que c'est la dernière étape avant l'accélération? Justement, on verra. Mais la raison pour laquelle je dis ça, 2022, la première date limite des transactions, tu sais, on sait, ça a été la plus occupée pour Kent Hughes. Il avait échangé Ben Sherratt, on savait qu'il allait être échangé, il était en fin de contrat. Brett Kulak aussi. Mais il avait également échangé Arturi Lehkonen et Tyler Toffoli, qui, eux, n'étaient pas en fin de contrat. C'est des joueurs en milieu de carrière. Et on avait quand même décidé de les échanger parce que, bon, probablement qu'on jugeait qu'il y avait une bonne valeur. Et surtout, on jugeait que ces gars-là, là où le Canadien s'en allait, ben, ils allaient finalement gaspiller leurs bonnes années dans une équipe en reconstruction. Alors, on les a échangés. Ben, cette année, là, avant la date limite des transactions, on a quand même beaucoup parlé aussi de David Savard. On a parlé de Yoel Armia. Il y avait des joueurs comme ça aussi un peu dans cette même situation-là où ils n'étaient pas en fin de contrat. Ils pourraient encore donner un coup de pouce l'an prochain. Kent Hughes aurait pu les échanger et j'ai l'impression qu'à l'intérieur du vestiaire, si tu échanges ces gars-là, ben tu renvoies encore un message
de découragement.
C'est pas fini, là. Encore des gars échangés contre des choix repêchage qu'on va seulement avoir dans 3-4 ans, tout ça. À place de ça, ben, ils restent avec l'équipe et bon, après ça, rien qui empêche Kent Hughes de les échanger cet été, là, on verra. Mais sinon, ben, tu les as pour commencer la saison prochaine. Donc, tu repartiras pas une autre année avec 5 recrues dans la formation, tout ça. Donc, en ce sens-là, il y a quand même un certain ralentissement, j'ai l'impression. Alors, faudra voir si ça signifie que c'est la dernière étape avant une autre étape.
Mais ça te prend quand
un autre plan quinquennal.
J'ai pas de meilleur punch que ça. Mais,
c'est pas vrai. Mais sans farce, ça te prend quand même des vétérans. Tu peux pas juste avoir des jeunes. Je pense que j'en ai parlé toute la journée. Tu peux pas, si tu fais juste des jeunes, rappelez-vous les Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton, il y a quelques années, avant d'avoir McDavid, on a eu Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins, Yakupov, Schultz. Puis Schultz, c'était pas un choix repêchage. Mais on a eu des hauts choix repêchage. On a liquidé l'équipe au complet. Puis à un moment donné, on a donné des... Après 3 ans, on leur a donné tous des gros contrats. Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est rien passé. Fait que là, ce qu'on a fait, on a vidé le club, on a échangé tous les vétérans et on n'avait plus vraiment de ligne directrice avec cette équipe-là parce que au final, ça prend justement... Tu peux pas donner une équipe à des jeunes puis, tu sais, moi, je compare ça à... Donne $1 million à un gars de 18 ans, c'est peut-être pas le meilleur cadeau que tu peux lui faire.
Effectivement.
Donc, c'est un peu le même constat. Ça te prend quelqu'un qui te prend sous son aile, une équipe de vétérans... pas complète, mais avec quelques bons jeunes ou bons vétérans qui permettent d'aider ces jeunes-là. Puis là encore, malheureusement, le Canadien a encore des vétérans comme Anderson ou Gallagher, Pearson, Armia. C'est quand même des bons vétérans. Est-ce qu'à un moment donné, tu voudras avoir des meilleurs vétérans qui sont bons, qui sont à la fleur de l'âge? Effectivement. Puis c'est là qu'on parle d'accélérer, d'appuyer sur l'accélérateur. Moi, je pense que on va être rendu là, pas cette année, pas l'année prochaine, l'année d'après. Puis là, ça va te laisser la chance d'écouler certains contrats, les Armia notamment. Va falloir que tu prennes une décision sur Gallagher et Anderson éventuellement. Mais t'es pas obligé de courir après ça parce que c'est quand même des bons vétérans. Ce qui te montre sur la patinoire, Anderson, il marque pas tous les matchs. On le voit bien. Après, mais il y a des chances souvent de marquer. Il travaille relativement fort. Je trouve que tu sais ce que tu vas avoir avec ce gars-là. Donc, t'es mieux. C'est un petit peu le meilleur poison que tu peux avoir. Gallagher, c'est la même affaire. T'es content de l'avoir avec toi. Puis, au final, c'est peut-être pas le meilleur disponible, mais tu sais que c'est un pro qui va arriver avec sa combativité. Et c'est ça que tu veux un peu inculquer à ces jeunes, que c'est pas facile et que c'est dur de performer dans la Ligue nationale et qu'on te donne pas des gros contrats rapidement sans que tu le mérites.
Mais je comprends ton explication, puis c'est rationnel, mais vu de l'extérieur, veut pas, tout le monde veut voir cette équipe-là être au moins un petit peu plus compétitive qu'elle a été au courant de cette année, l'année passée. Si tu es éliminé au mois de décembre ou au mois de janvier, ça devient un moment donné, tu dis, on est où? On fait quoi avec cette équipe-là?
Mais on n'était pas éliminé au début de janvier, par exemple.
Bah, écoute, c'était pas loin. T'sais, disons que la dernière année, pas cette année, mais l'année passée, au mois de décembre, c'était pas mal fini. Cette année, un petit peu plus compétitif. L'année prochaine, tu sais, je dis pas peser sur l'accélérateur pour dire on s'en va en finale de la Coupe Stanley, mais tu sais...
Faut se rendre jusqu'au mois de mars.
Non, mais soit dans le pack, là. Tu sais, soit à 2 points, soit à quelque chose, à 4 à la limite, mais pas distancé par 8, là.
Ben, en fait, la date limite des transactions serait quand même un bon point de référence l'année prochaine, parce que si on parle d'idée, disons que le Canadien avait une wild card, c'est quoi le bon mot? La carte cachée. Était, disons, 8e dans l'Est ou 9e ou 10e avec une possibilité de monter et se retrouve à date limite des transactions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, tu sais, acheter, ça ferait accélérer à la construction? Ou est-ce qu'on, tu sais, comme les Flyers qui sont trouvés devant ce problème-là, de dire, tu sais, qui ont décidé de quand même échanger Sean Walker. Alors, mais l'année prochaine, les joueurs autonomes de l'été 2025 du Canadien, ben, c'est Joel Armia, Jake Evans, Michael Pezzetta et David Savard. Alors, David Savard, je pense qu'il y aurait un à moins que vraiment il s'effondre complètement l'an prochain, je pense qu'il va avoir encore une demande. Mais tu sais, les autres, c'est l'équipe va pas renflouer.
Il y a Christian Dvorak aussi qui est sur la liste des blessés.
Oui, il était trop loin.
Il est dans la liste des
blessés.
Mais bref, il s'inscrit dans la même
ligne.
C'est que c'est pas des joueurs comme Monahan cette année qui rapporteraient énormément. Fait que le Canadien, dans le fond, c'est un peu dire que l'année prochaine, la date limite de transaction, faudrait que l'équipe puisse continuer, tu sais, qu'ils se retrouvent pas à être obligés d'être des vendeurs parce qu'ils sont trop loin. Et je pense que de la manière que les contrats sont faits, ben comme je disais, je pense pas qu'on s'arrache Christian Dvorak à ce moment-là. Si oui, ben tant mieux pour lui parce que ça va lui permettre de peut-être aller jouer dans une meilleure équipe. Mais tu sais, par ailleurs, puis juste pour rebondir sur ce qui était la question du leadership, Kent Hughes l'a abordé aujourd'hui, il y a une question là-dessus et il avait l'air de dire que oui, effectivement, faudrait qu'il cherche ça parce que là on a échangé Monahan, on a échangé Allen, ces deux figures importantes du vestiaire. Il en reste évidemment, il y a Matheson, il y a Savard, Antoine a parlé de Anderson et de Gallagher, mais ils sont rares. Et je pense, puis même Kent Hughes est allé plus loin en donnant l'exemple des sénateurs d'Ottawa qui ont vécu un manque de leadership, une crise de leadership. Mais quand on regarde les sénateurs, c'est une équipe qui s'est reconstruite exclusivement par le repêchage, pratiquement jusqu'à temps qu'on acquiert Claude Giroux et Alex DeBrincat. Avant ça, c'était essentiellement des fois des vétérans un peu rapiécés ici et là quand on était allé chercher Dadonov, des drôles
Amonique
de...
aussi. Ah,
c'est ça, tu sais, un peu rapiécés, mais c'était que le repêchage, alors que le Canadien, faut quand même lui donner, tu sais, Guillaume y a touché tantôt, est allé chercher Kirby Dach, est allé chercher Alex Newhook, donc on n'est pas complètement passif à juste attendre que les jeunes qu'on a repêchés grandissent. Et je pense que, je l'ai senti dans la réponse qu'on a entendue de Kent Hughes dans l'extrait, qu'il y a une volonté d'y arriver un moment donné et que l'année prochaine, pour conclure, revenir à la question de base, moi, je m'attends qu'il y ait un pas en avant. Je ne sais pas si ça va être les séries, mais il faudrait au moins qu'il en soit question, que ce soit dans la conversation.
Ben, le meilleur exemple, en fait, c'est de regarder ce que Nashville y ont fait.
Ouais.
C'est, aujourd'hui, Nashville sont allés chercher Allison, ils ont échangé Trenin, qui est pour moi un gros train que si tu veux avoir en séries éliminatoires, ils l'ont échangé au Colorado parce qu'ils ont besoin de ce papier sablé-là. Mais ils ont quand même été capables d'aller soutirer quelques éléments. Allison à Philadelphie, Zucker en Arizona, puis Beauvillier. Pour moi, on s'est un petit peu amélioré de ce qu'on avait, puis ça nous donne l'opportunité de rentrer en séries éliminatoires puis de donner de l'expérience à nos jeunes joueurs.
OK.
Puis ça, c'est bénéfique.
Okay. Ils pouvaient se priver de Trenin aussi parce qu'il y a une équipe au complet qui frappe de toute façon.
Exactement. Ouais, exactement. Mais là, t'amènes Nashville. On va faire un tour de ce qui s'est passé à travers la Ligue nationale de hockey. Je vais vous nommer les équipes, les acquisitions qui ont été faites et vous allez me dire qui sort gagnant de tout ça. Les Hurricanes de la Caroline vont chercher Gonzo, vont chercher Kuznetsov. Vegas va chercher Anthony Manta, Noah Hannifin, Thomas Hertel. Les Jets vont chercher Toffoli, ont été cherchés déjà Sean Monahan. Les Oilers d'Edmonton, Adam Henrik, ont été cherchés Troy Stetcher aussi. L'Avalanche du Colorado, Sean Walker, défenseur, c'est à peu près tout. Middlestadt également. La Floride, Tarasenko, Kyle Okposo. Les Rangers, Wanberg, pour de ça, Roslevich qui s'en va avec
Grundel.
Oui, exactement. Boston va chercher Pat Maroon. Nashville va chercher Zucker, Beauvillier. Tampa Bay va chercher Dumba, Duclair. Qui gagne cette journée-là aujourd'hui? Je commence avec Guillaume.
Ah, Vegas.
Vegas!
Il n'y a aucun doute. Ben, juste Noah Hannifin à la base. Ouais. Oublions Meyer, oublions Manta. Noah Hannifin, c'était vraiment, je pense, le joueur à aller chercher. Je pense que Jake Gensel était l'autre. Mais je disais, bon, OK, Vegas avait déjà fait ses choix. Mais Hannifin, c'est hallucinant. La défense que ça va donner à Vegas, les adversaires n'auront absolument aucun répit. Je sais pas si j'ai déjà vu une défense de cette qualité-là. On a souvent vu des gros top 4 à défense, mais là, un groupe, un top 6, là, comme aussi complet.
Quasiment top 7, mais y a-tu quelqu'un qui a déjà expliqué à Billy McCrimmon que c'est pas un pool de hockey qu'on essaie de faire, mais bien une équipe? Parce que pour moi, quand je le regarde faire, ça me dérange énormément. Pas parce qu'on trouve des moyens d'ajouter des joueurs blessés à notre liste d'équipe. Pour moi, je trouve que c'est assez cohérent, c'est trouver des moyens de réussir dans un contexte difficile. Ça, je salue cette ingéniosité. Mais pour moi, c'est est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que aller jusqu'au bout des choses de cette manière-là, d'hypothéquer ton avenir, parce que là, tu hypothèques complètement ton avenir avec l'ajout de Hurtle. Pour moi, c'est juste ne pas avoir de... C'est pas conséquent dans la suite des choses. Oui, tu vas probablement avoir une grosse année. Si tu gagnes la Coupe cette année tout de suite, maintenant, parfait. Tu vas le faire deux années consécutives.
Sauf que Marchessault arrive à échéance dans pas long. Fait que là, t'es Hertel qui
est là. Et d'où les pouleurs où je me dis que si je suis Marchessault, moi, je suis là depuis le début. J'ai gagné le trophée l'année passée, remis aux joueurs par excellence des séries éliminatoires, puis qu'on va chercher un gars qui a rien fait pour l'organisation, puis que moi, je suis sûr, je suis à re-signer on ne m'a toujours pas re-signé. Sincèrement, j'aborde les séries là, un petit pas avec un pas de recul, pas déçu, mais je t'en maudis. Puis si je suis Stevenson, c'est la même affaire. Puis si je suis Martinez, ça a été un ajout par la suite des choses. Puis la façon de procéder de Vegas, pour moi, c'est de cette manière-là. C'est juste que quand tu signes avec cette organisation-là, tu sais très bien que tu peux être sacrifié n'importe quand, puis que tu es juste un morceau de viande qui est prêt à passer à l'abattoir.
Mais l'objectif, c'est pas la victoire dans le sport professionnel.
Oui, mais il faut pas que tu oublies qu'il y a une seule rondelle sur la glace. Sur l'avantage numérique, il y a un joueur qui joue à la pointe, il y a un joueur qui joue à sa droite, à sa gauche, il y a un joueur qui joue devant le net et il y en a un dans le généralement dans le milieu. Mettons qu'on prend sensiblement la base. Tous ces joueurs-là vont faire comment pour avoir leur temps de glace? Comment ils vont se faire pour bien se sentir, pour retrouver leur air d'aller? Moi, quand je vois toutes ces transactions-là, je me demande sincèrement à quel point ils vont trouver leur rythme.
Ça ressemble un peu aux Rangers de l'année passée qui avaient cherché Patrick Kane, puis on avait mis du
Tarasenko, Mikola.
Ouais, exactement. Ça, on avait amené beaucoup de choses. Je veux savoir, Simon Olivier, qui gagne cette journée-là?
Je vais dire une autre équipe parce que je vais commencer par dire sur Vegas. D'abord, okay. Moi, ça aurait été mon choix Vegas, mais j'entends Antoine puis je le rejoins sur trop comme passé. Moi, c'est ce que je pense chaque année. Généralement, l'histoire nous a montré que c'est pas l'équipe qui va chercher le gros poisson qui gagne la coupe. C'est une équipe qui ajoute des joueurs de profondeur, un joueur de deuxième trio, un défenseur de deuxième paire, un gardien substitut. Comme un train-in, on disait au Colorado, pour venir justement colmater des brèches puis se renforcer, mais pas réinventer son identité. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la semaine du Colorado, que justement, on a comblé des besoins spécifiques. Colorado me laisse sceptique à cause des gardiens de but, mais ça aurait été dans mes choix. J'ai beaucoup aimé ce que Winnipeg a fait. Oui. On est allé chercher Monahan très tôt, donc on lui laisse le temps de s'acclimater. Ça va très bien pour lui. On amène Toffoli qui comble un besoin immédiat, qui est justement de l'offensive secondaire. Mm-hmm. Qui est pas, tu sais, peut-être qu'il va juste sur le premier trio, mais dans le sens qu'il ne devient pas le visage de l'équipe. Fait que je pense qu'on a bien fait ça. Vegas, c'est ce qu'on a fait avec Anefin et avec Manta. C'est-à-dire que c'est deux noms très connus, mais Anefin, tu sais, ils ont déjà Pietrangelo et Theodore sur le premier duo. Fait qu'Anefin arrivait presque dans un rôle de soutien. Manta, c'est pas un attaquant de premier trio dans la Ligue nationale, mais il est tellement gros, il est tellement polyvalent que j'adorais ça. Là, je vois Hertel, je suis comme, c'est-tu celui de trop? Mais cela dit, Marchessault, ça fait un an qu'il en parle, qui s'attend à ce que les Golden Knights le re-signent pas cet été. Il sait comment ça marche dans cette organisation-là. Puis je veux dire, je comprends que peut-être que ça peut être un peu ordinaire de dire, mais là, moi, où je vais jouer? Mais s'ils gagnent la Coupe Stanley, peut-être que ça va passer plus facilement. Puis je veux dire, c'est ça leur mode de gestion, de dire, on veut gagner chaque année. Je pense aussi qu'il y a une date de péremption à ça. Qu'à un moment donné, ils vont se retrouver avec tous ces contrats-là, puis ils vont être mal pris parce qu'on peut pas gagner pour toujours. Mais, moi, je suis très à l'aise de voir une équipe qui dit, regardez, on prend les moyens, puis chaque année, on se donne une chance réelle de gagner la Coupe. Pas, si notre gardien va pas trop mal ou si on se blesse pas. Non, non, ils ont tout ce qu'il faut.
C'est pour vrai.
Est-ce qu'on a paniqué parce que dans les derniers 10 matchs, on est 1-9-1? Est-ce que c'est rendu là? Là, présentement, là, on est peut-être l'équipe la plus chargée en termes de talent, de joueurs, qui est en... première ou deuxième position
sont
les derniers des séries.
Ils ont un coussin, par contre, parce qu'ils ont 6 points d'avance sur Calgary, mais ouais, 2-7-1, en fait, dans les 10 derniers, donc c'est
quand même un petit peu stressant, pareil.
C'est de la micro-gestion, ça, je trouve. T'sais, c'est gérer le problème dans son immédiat et pas voir à plus long terme. Et moi aussi, je pense pas que c'est juste en faisant un club d'étoiles que tu gagnes des matchs. T'sais, c'est une composition qui est complètement différente.
Mais ouais, en fait,
je disais, c'est pas nécessairement non plus un club d'étoiles, dans le sens, le gros poisson, mais c'est pas le gros poisson.
C'est pas McCarr.
C'est pas comme Patrick Kane l'a passé. C'est dans le sens, c'est un excellent joueur, mais c'est pas non plus une star qui va jouer 28 minutes, premier avantage numérique, tout ça.
Il est pas explosif.
Non, c'est ça, exact. Mais c'est un gars que si tu l'as dans un rôle de deuxième duo, là, à 19-20 minutes, moi, je trouve que t'es quand même très bien.
OK, là, c'est pas, j'ai tellement plein de questions, là, mais on va deux
fait
questions.
Ça, on fait le podcast de 2 heures, finalement.
OK, non, mais attends, 2 rapides. OK, là, t'as Anthony Manta qui est avec Vegas, t'as Marchessault qui est avec Vegas. Les deux vont être joueurs autonomes. Est-ce que le Canadien doit lever la main s'il devient disponible?
Pour Marchessault, je pense que oui.
Antoine, pas Manta?
Non.
T'aimerais pas ça, un gros gars comme ça?
J'adore le...
Avec des bonnes mains?
Ben, ça dépend lequel on a.
Ah, effectivement.
Parce que Anthony Manta, c'est une très bonne personne. Je l'ai côtoyé. Je trouve que vraiment, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un de bien, mais dans le jeu des dernières années, on lui a consenti un gros contrat. Puis ça, c'est Antoine, l'analyste, qui parle, pas nécessairement le joueur de hockey, mais quand on évalue son contrat, son dernier contrat, ben est-ce que tu as soutiré le maximum de lui dans ce contrat-là? Moi, je serais frileux de donner un contrat à long terme à ce joueur-là dans les conditions dans lesquelles il a fini son contrat.
OK, mais Marchessault, c'est quoi? C'est 33 qu'il a?
33 ouais, ans? Il est plus vieux.
Mais fait... t'as peu Marchessault. Là,
t'as peu,
s'il te plaît. Parce que Marchessault, il connaît une grosse saison. Il s'en va sur une saison de 30 buts encore. Peu importe l'âge, il est capable de marquer. Donc, est-ce que je suis prêt à lui offrir un contrat de 5 ans? Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un que j'aurais... Il y a la cible et ça s'est marqué... recherché dessus avec sa face placardée à Montréal.
Mais c'est parce que lui, c'est ça exact pour le Canadien, c'est qu'il amène une espèce de fougue qui est très dure à trouver puis que je pense pas que le Canadien a nécessairement dans ses
concurrence aussi Caulfield.
Oui, ben oui.
Parce que là, ils vont se battre aussi pour le même poste parce qu'on parle souvent de Dak, de Suzuki. Ah, Dak va concurrencer Suzuki. C'est qui concurrence Caulfield?
Personne.
Bon, là, tu vas chercher un deuxième ailier droit qui... met un peu de pression, qui lui chauffe le popotin. Donc, c'est intéressant. C'est une belle concurrence
donc,
interne.
Donc, Antoine, Marchessault dit oui. Guillaume, est-ce que tu dis oui à Marchessault? Tu dis oui.
Absolument. Ben, comme Antoine, par contre, c'est sûr que si ça vient qu'une demande de contrat de 5 ans, il a 33, il va avoir 34 en décembre. J'hésite là-dessus. 3 ans, tout à fait. 4 ans, j'imagine que tu y penses.
Ça va finir à 4 probablement parce que tu sais, il va falloir que tu le payes plus.
Ben, ça se peut bien. Puis ça se peut que la fin de contrat soit pas jolie, mais oui. Puis, mais c'est ça. Cette espèce de drive-là, à défaut d'avoir un meilleur mot, c'est pas quelque chose nécessairement que les joueurs dominants du Canadien ont en eux, ou du moins qu'on a vu jusqu'ici. Et Marchessault, c'est juste ça.
OK. Simon-Olivier, tu as le choix entre Manta, tu as le choix entre Marchessault. Est-ce que tu lèves la main pour un des deux quand ils seront joueurs autonomes?
Je suis tiraillé. Moi, je suis pas un gros fan de Manta, à la base, pour les mêmes raisons qu'Antoine. Marchessault, je l'adore, mais est-ce que les gens vont être à l'aise que 4 des 6 joueurs du top 6 mesurent moins de 6 pieds? J'ai pas de problème avec les petits joueurs.
Nous,
mais
ça va faire un excellent sujet de balado. Ça va être super le fun.
Non, mais je veux dire, j'ai pas de problème avec les petits joueurs. Il y a plusieurs petits joueurs dans la Ligue nationale qui connaissent beaucoup de succès, puis la Ligue tend vers ça. Mais la Ligue ne tend pas. Il y en a pas des équipes qui ont du succès qui a que des petits joueurs dedans. Et 4 sur 6 dans le top 6, donc c'est-à-dire pour compter Caulfield, Suzuki, Newhook et potentiellement Marchessault, je pense que les Canadiens se mettrait à risque, d'autant plus qu'après ça, en profondeur, ben oui, il y a encore Josh Anderson, il y a Yoel Armia, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, le Canadien qui se retrouverait justement à jouer contre des Vegas, contre même, tu sais, contre les Hurricanes, contre ces gros clubs-là, je trouve que il manquerait peut-être de diversité, mais après ça, c'est bizarre, parce que je suis en train de dire, est-ce que le Canadien vous devrait se priver d'un marqueur peut-être de 40 buts, parce qu'il est déjà à 30 buts, Marchessault, il pourrait approcher de 40. Si Marchessault est intéressé, ben, je pense que peut-être qu'ils n'auront pas le choix d'y aller.
Okay. Mais tu sais, t'as quand même.
Oui, mais.
T'as parlé d'Anderson, mais ça, t'as Anderson, t'as Armia, mais bon, Armia, il est peut-être pas là à long terme, de Slavkovski, t'as Dak. T'as quand même une couple de gars de gros format. Ça reste qu'effectivement, bon, Marchessault à 5 pieds 9, c'est en ce sens-là, c'est pas idéal. Mais c'est un 5 pieds 9, je pense qu'il joue. Il a gagné le Conn Smythe, il a prouvé d'ailleurs, c'est ça, c'est une des choses qu'on reproche souvent aux petits joueurs, c'est de dire en série, ils sont pas aussi efficaces. Lui, il l'est parce que c'est un gars qui joue, je pense, plus gros que sa taille. Alors, c'est pas le même 5 pieds 9 que d'autres joueurs.
Il joue comme
format,
si il était 6 et 2.
C'est pas le même 5 pieds 9. J'aime
mais
ça.
À Vegas, c'est le seul joueur en bas de 6 pieds dans le top 6. C'est ça quand même une différence fondamentale. Là, il serait 1 sur 4 chez les Canadiens, tentativement. À Vegas, c'est 1 sur 6. Il n'y en a pas d'autres. Tous les autres font 6 pieds et plus. Donc, forcément, son utilisation changerait.
OK. J'ai dit que j'avais deux questions. La première, c'était soit
c'est
Manta.
Juste la première.
Ouais, c'est imagine. Manta, Marchessault. La deuxième, il n'y a personne qui a parlé des Panthers de la Floride. Tarasenko, Kyle Okposo, vous n'aimez pas ça?
Ben, en fait, moi, j'aimerais ça revenir là-dessus. Parce que.
Hey, excusez-moi, là. C'est un club de hockey, là.
Mais j'ai envie de te dire. T'es en ce moment sur l'autobahn avec la Floride, et il y a les autres, c'est des petits chars qui vont contourner. Pour moi, ils ont une ligne ouverte jusqu'à la finale. Et ce qui est impressionnant, c'est que toutes les équipes de l'Ouest se sont considérablement améliorées. On a vu, en fait, c'était une réaction en chaîne un petit peu. oh, eux autres se sont améliorés et nous autres, faut qu'on fasse quelque chose parce que si on n'a pas assez, on n'en aura pas assez. Puis je regarde dans l'Est, ça a été des ajouts très mitigés et mis à part quelques joueurs, dont la Caroline avec Genzel, on va revenir avec Kuznetsov aussi tantôt parce que c'est quand même un dossier qui mérite de s'y attarder, mais avec Tarasenko, pour moi, on va chercher un joueur qui est capable de faire une différence, qui a gagné la Coupe cette année, puis qu'il n'y a pas nécessairement la même identité que l'équipe. Mais tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde pareil pour gagner la Coupe cette année. Donc, il t'amène quelque chose d'autre que tu n'as pas nécessairement dans ton alignement. Il replace Nick Cousin dans sa chaise parce que là, présentement, il jouait sur un trio plus haut. Moi, personnellement, la Floride me font peur parce que ils sont capables de tout faire.
Ils sont forts.
Tu sais, les Bennett, les Tkachuk, eux autres, ils vont jouer leur match. Puis Mathieu Tkachuk, l'autre jour, il disait en entrevue, « Ah, nous, premier 10 minutes du match, on a joué. Il n'y avait pas de rondelle. On a joué comme s'il n'y avait pas de rondelle. » Puis assumer ça sur les médias, puis le dire ouvertement, c'est une chose de le dire dans la chambre. Les gars, on frappe tout ce qui bouge les 10 premières minutes.
Mais le dire publiquement,
t'annonces la couleur, tu dis, on est prêt à tout. Quand tu les regardes jouer, c'est des maths à mort. Même s'ils sont pas très gros, les Bennett, les Tkachuk, les Lomberg, c'est même Ekblad, c'est rendu qu'il joue du bâton.
T'imagines, même lui. Mais sincèrement, moi, je trouve avec Tarasenko et Kyle Okposo, vraiment, il va falloir surveiller les Panthers de la Floride. Kuznetsov, on fait ça un petit tour là-dessus?
Oh oui.
Là, il y en a un club qui a pris sa chance, c'est les Hurricanes de la Caroline. Lui qui était dans la Ligue américaine, donc libéré par les Capitals de Washington, du moins envoyé au ballottage et envoyé dans la Ligue américaine par les Capitals de Washington. Est-ce que ça va marcher avec les Hurricanes, Simon-Olivier?
Je le sens pas, honnêtement. Tout ce que, en fait, là où je me dis que c'est pas si grave, c'est qu'il n'y a pas vraiment de risque. C'est-à-dire que, mettons que ça marche pas, ils peuvent ne pas le faire jouer. Ils n'en ont pas besoin.
Mais quand juste à dire, il a dit aujourd'hui, je réalise que c'est la dernière chance que j'ai dans la Ligue nationale de hockey.
Mais en fait, c'est que si ça marche, c'est que leur ligne de centre n'a pas de bon sens. Puis si ça marche, est-ce qu'il espérait que Kanemi joue en série? C'est pas sûr.
C'est sûr que non.
Et tu sais, Kuznetsov, là, dans les séries de 2018, quand les Capitals ont gagné la Coupe Stanley, aurait pu gagner le trophée Conn Smythe. C'est vraiment, tu sais, il faisait, je pense que c'était un point par match. J'ai pas les chiffres sous les yeux, j'aurais dû le faire. Mais c'est un sacré bon joueur, mais qui a perdu beaucoup, beaucoup de plumes, qui a pas été un contributeur efficace des dernières années. Fait que c'est toujours ça, faire le pari sur un joueur qui est pas ce qu'il a déjà été. Est-ce que ça va payer? En fait, c'est vraiment un cas où il n'y a pas de risque. Mais moi, sur le plan de la personnalité, ça ne m'a pas emballé comme ajout à cette date-ci, alors qu'on sait que pour plusieurs équipes, d'ajouter un joueur tard dans la saison comme ça, ça peut être compliqué pour l'intégration et tout. Je pense que Gwenzel, c'est vraiment un plug and play. Kuznetsov, c'est intriguant. C'est très intriguant pour moi.
Mais avec un leadership solide avec les Hurricanes, en parlant de Rod Brind'Amour, qui est le leader de ce club-là.
Exact.
Je pense que c'est my way or the highway avec Kuznetsov. Tu peux pas te tromper.
Il n'y aura pas de marge de manœuvre.
Est-ce que ça va marcher selon toi avec les Hurricanes?
Ça va marcher. Je vous ai, premièrement, oublions pas qu'il arrive du programme d'aide de la Ligue nationale. Certains joueurs en ressortent bien transformés, grandis, etc. Donc, si c'est le cas pour lui, tant mieux. Cette partie-là de la réponse, ça appartient seulement à lui. Cela dit, je trouve quand même que les Hurricanes avaient déjà beaucoup de talent pur offensif. Alors, ça revient à ce qu'on disait tantôt, à quel point tu en as besoin. Je regardais jouer contre le Canadien hier. C'était hier, c'est ça, exact. Puis je trouvais pas que ça manquait particulièrement de talent offensif non plus.
Mais dans les séries l'an passé, ils ont perdu l'ensemble de leurs matchs par un but. Il manquait souvent juste un but.
Il manquait Chechnikov aussi l'année passée.
Aussi. Tu sais, mais t'as besoin d'avoir ce gars-là qui est capable un soir donné d'en mettre un dedans qui t'amène une victoire.
Mais c'est ça, par rapport aux séries de l'an passé, t'ajoutes Svechnikov, t'ajoutes Genzel. Orlov. C'est quand même.
Qui était pas avec eux l'an passé.
Et Orlov, mais Orlov a quand même une saison coup-ci, coup-ça.
Oui, sauf que c'est un joueur pour les séries. C'est un joueur, c'est le fameux gros bonhomme qui peut contribuer offensivement. Effectivement, cette saison, c'est pas terrible, mais c'est vraiment un gars qui peut éclore à ce moment-là. C'est comme ça que je vois ça.
Antoine, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, parce que pour moi, cette équipe-là manque de joueurs et c'est ça qu'ils ont comblé. C'est ça pourquoi je trouve que la Caroline, c'est peut-être leur année qu'ils vont se faufiler. Parce que oui, on a parlé de l'Autobahn et de la Floride, mais la Caroline, ils ont été chercher Genzel. Genzel, pour moi, quand je le regarde, c'est un joueur qui est capable de créer de l'offensive. Il n'y a pas besoin de Sidney Crosby pour être bon. il est capable, dans un mouchoir de poche, de sortir des jeux, d'être bon, de créer de l'offensive, de rendre les joueurs meilleurs autour de lui. Moi, à chaque fois que je le vois jouer, je me dis, il n'y a pas besoin de personne. Il est capable de le faire tout seul. Donc, tu ajoutes ce joueur-là. Tu ajoutes Kuznetsov, qui est capable d'avoir cette créativité-là. Puis, il a gagné la Coupe cette année. Il l'a déjà fait. Donc, puis je veux pas mettre l'emphase sur le fait qu'il a déjà gagné la Coupe cette année, ça change pas tout, mais il était en rédemption aussi. C'est un joueur qui a du talent, puis le talent, croyez-moi, ça s'achète pas. Donc au final, c'est t'as amélioré la situation de ton équipe en prenant un petit risque. Donc je trouve que c'est l'équipe qui vole sous le radar, mais qui peut faire des gros dommages.
Moi, j'allais juste ajouter, ce que je trouve intéressant des Hurricanes, eux, c'est le premier tour des séries qu'ils vont avoir. Parce que, comme c'est là, en ce moment, ils sont en deuxième place de leur division, ils sont à 4 points des Rangers. Si ça reste tel quel, donc finissent deuxième, vont jouer contre la troisième équipe de leur division. Et c'est là que c'est intéressant, parce que là, en ce moment, les troisièmes, c'est les Flyers, qui, on en parlait tantôt, ont échangé Sean Walker. Les Flyers, comme clairement, se laissent pas berner par ce qu'ils voient cette année et se voient encore comme une équipe qui est pas rendue au point de gagner. Alors, s'ils se rendent quand même en série, ça reste que ça, c'est une équipe qui est déjà limitée et qui, en plus, a perdu un morceau important. Alors, soit que tu vas avoir les Flyers dans cet état-là, soit que tu vas avoir, sinon, les Islanders qui auront réussi une remontée.
C'est possible, c'est, ça aussi.
Ça se peut
aussi. Je serais pas surpris que ça arrive puis qu'ils détrônent Tampa Bay.
Exact, mais attendez, on va en parler de ça, là, parce que ça s'en vient pour Tampa Bay. C'est pas tranquille.
Non, exact. Mais c'est ça. Moi, je parle spécifiquement pour les Hurricanes. Donc, l'équipe qui va finir en troisième place, je ne sais pas ça va être qui, mais les Hurricanes ont potentiellement devant eux un premier tour, je ne veux pas dire à rabais, mais ça pourrait être quelque chose que si les Hurricanes gagnent ça rapidement, ben, ça va leur donner des munitions plus pour la suite des choses. Donc, vraiment intéressant.
Celui-là. Si les Hurricanes seront heureux de voir Jake Gunzel arriver avec la formation, ben, les Pingouins sont déçus de le voir partir. Et quand je parle de déception, le mot est faible. On a eu de grosses réactions chez les Pingouins de Pittsburgh. Crosby, Malkin, il n'y a personne qui est heureux de voir le départ de ce joueur-là, de Jake Gunzel qui quitte pour les Hurricanes de la Caroline. On s'arrête quelques instants pour retourner. On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode 43 avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Larange et Antoine Roussel. Les gars, sur ma feuille, j'ai écrit « Pittsburgh, le pingouin se sent seul sur sa banquise ». Je me suis trouvé tellement bon quand j'ai écrit ça. Là, Jake Gunzel a quitté, mais aujourd'hui, ce qu'on lisait puis ce qu'on voyait dans les points de presse, Crosby est malheureux, Malkin est malheureux, le temps qu'on prend pas, ils se sont fait laver 6-0 contre les Capitals de Washington. Où s'en vont les pingouins de Pittsburgh? Voilà la grande question. Je commence avec Antoine.
Ben c'est dur d'accepter, je pense, pour un athlète de haut niveau, de ta situation, des fois. Quand je regarde froidement leur situation, l'année dernière, on se qualifiait en séries éliminatoires, on avait deux matchs à finir, puis on n'a pas été capable de livrer la marchandise. On avait deux matchs pour se qualifier, pour finir huitième. Et puis le dernier match, on jouait contre Chicago. Chicago qui a battu les Pingouins dans le dernier match et c'était une équipe faible l'année dernière. Mm-hmm. Donc, je reviens.
Pourquoi t'en parles au passé?
Tout à fait.
C'était déjà une équipe faible.
Tout à fait. Faudrait que je retrouve mon Becherel. Mais bien évidemment. Et c'est ça. C'est difficile de l'accepter où est-ce que t'es rendu. Quand un joueur qui est nécessairement en fin de carrière, des fois, ben, tu penses que t'as toujours plus. Mais des fois, c'est difficile de voir la réalité en face. Et oui, on peut être déçu, mais ils ont eu les opportunités. Les Pingouins, les joueurs, ont eu l'opportunité de changer la dynamique. Je pense que Carl Dubus avait quand même été assez clair. Et dans ses actions, quand il est allé chercher Erik Karlsson, il a fait foi de tout avec son noyau. Il leur a donné l'opportunité de « Regardez les gars, je suis avec vous. »
Je suis tellement pas d'accord avec
non,
toi.
Non, mais
t'as
peu, j'ai pas fini. Il est allé chercher ces gars-là. Il s'est débarrassé de Granlund, qui aidait pas, de Yann Ruta, qui aidait pas. Fait, il est allé chercher un joueur qui est dynamique, en Carlson. Fait que, en soi, il a essayé de les aider. Est-ce que le chemin était parfait?
Arrête, t'as mis les bâtons dans les roues à Christopher Letang, qui a encore 4 ans de contrat. Ou peut-être, après cette saison-là.
Mais froidement, tu sais, quand tu penses à améliorer, c'est facile. Moi, je pense que, tu sais, quand t'es en GM, t'essaies d'être en analyse financière. Nous autres, on est des comptables. On fait le résultat des choses et on fait le calcul. Ah, ça, c'était pas une bonne décision.
Et Carlson, c'était pas un bon calcul. En soi,
mais ben, c'était une prévision qui s'est peut-être pas matérialisée, mais il y a une bonne saison. Christopher Letang, il y a une bonne saison. Mais...
Non, le temps, oui, mais Carlson, écoute, tu vas être pris avec ce contrat-là à tout jamais.
Mais Carlson a une bonne saison.
Il y a une bonne saison.
Il y a une bonne saison.
Mais, ouais, puis les joueurs ne pensent pas au contrat. Je pense que le problème du contrat à long terme dans un vestiaire.
On a essayé de leur donner, d'insuffler ce vent de fraîcheur puis de leur donner une chance. Mais on n'a pas pris la balle au bon. Puis on l'a présentement. On n'est pas en série. Le constat est clair. Maintenant, il faut changer son fusil d'épaule. Il y a deux options. L'option numéro un, c'était de. On va à vita aeternam avec nos vétérans et on surfe la vague au maximum. Bon, ça, l'option 1, on s'entend que c'est fini. Ben, pas fini, mais c'est plus vraiment le plan initial. L'option 2, c'est de garder nos vétérans, d'aller chercher des jeunes joueurs et d'utiliser, selon moi, le savoir de Christopher Letang, de Sidney Crosby, de Malkin, de former cette jeune génération-là. Puis de passer ce savoir-là, parce que ça a une valeur intrinsèque que des fois, c'est dur à visualiser puis à saisir, mais ils ont quelque chose à partager, ces vétérans-là. J'ai déjà été vétéran, je voulais aider les jeunes.
Je comprends, mais là,
l'option 3...
Sidney Crosby, le gars veut gagner, là.
Oui, il veut gagner.
Est-ce que ça va leur tenter de
ça, c'est la boîte de Pandore, l'option 3. L'option 3, c'est de échanger Sidney Crosby. Mais là, t'as des nouveaux propriétaires, le Fenway Group, qui viennent d'acheter l'équipe de Mario Lemieux à gros prix. Est-ce que tu veux échanger ta tête d'affiche comme ça? Est-ce que c'est ça que tu vas faire? Parce qu'ils ont quand même encore de la valeur, ces joueurs-là. Puis on le voit, tu sais, Hurtle, il y a encore du contrat.
Mais il y a
jusqu'à...
un contrat à Crosby, là. T'sais, à un moment donné, Crosby aussi peut lever la main et dire... Ouais, mais moi, fini, là, je veux m'en aller.
Je veux pas parler, mais là, j'ai l'impression que c'est juste moi qui parle, mais je veux pas... Tu sais, Crosby, en tant que vétéran, tu sais, c'est un capitaine. T'es un capitaine de bateau, il veut pas être le gars. T'sais, imagine le Titanic, là, t'sais, dans la scène, à un moment donné, le capitaine, là, lui, il coule avec le bateau.
Ouais.
Sidney Crosby, il se voit comme ce capitaine-là. C'est sûr et certain. Mais si, avec le recul, faudrait qu'il soit le premier dans le bateau, partir, puis aller au Colorado, puis aider son chum McKinnon. C'est ça qu'il faudrait que tu fasses.
J'ai l'impression.
C'est romantique.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'il regarde plus du côté de la direction en disant qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Et non pas juste lui, mais plutôt. Qu'est-ce que vous nous amenez comme option? T'sais, ils n'ont pas de gardien de but. Ça fait quand même une couple d'années. Ça va un peu tout croche.
Ben, Jarry est bon. Okay. Nedeljkovic, c'est
comme? Nedeljkovic, lui, est en dernière année de contrat. Donc, on verra. Non, mais ça passe par Jarry.
OK. Guillaume, toi, comment tu vois la situation avec les Pingouins?
J'ai honnêtement de la misère à avoir une lecture là-dessus. J'avoue que le point de presse de Crosby, hier, j'ai écouté, c'est un 2 minutes qui est passé, puis je me sentais légitimement mal pour lui et pour ce vestiaire-là. Je me disais, mon Dieu, quelle fin de saison ça va être là-bas. Puis en plus, c'est drôle, mais je me suis dit, ben là, tant qu'à être là, est-ce qu'ils vont être capables d'abord aujourd'hui de faire d'autres gestes comme ça pour aller chercher? Parce que ce qui est bien dans l'échange de Jake Gensel, c'est qu'ils ont été chercher beaucoup de prospects qui, tu sais, je veux dire, ils attendront pas pendant 3 ans nécessairement ces espoirs-là. Tu sais, c'est des gars, je pense, surtout Koivunen qui est dominant en Finlande. Mais tu sais, c'est des gars que tu vas quand même pouvoir voir à court terme
rapidement,
à Pittsburgh. Donc, tu sais, ça, en ce sens-là, c'est encourageant. Mais je me disais, bon, est-ce qu'ils vont être capables de faire d'autres gestes comme ça aujourd'hui? Ils en ont pas fait, finalement. Ça a été plus tranquille aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir, mais je me demandais vraiment à quoi cette fin de saison-là va ressembler à Pittsburgh, parce que c'était complètement fou. En même temps, regardez, Crosby a relativement été choyé dans sa carrière, c'est-à-dire que l'an passé, c'est la première fois qu'il ratait les séries depuis sa saison recrue. Donc, ça, c'est quand même...
C'est 16 ans, 15 ans, c'est quoi?
C'est ça, exact.
Et Malkin s'est excusé auprès des partisans.
Pour le match, oui.
On s'excuse, vous payez cher, on s'excuse de jouer de cette façon-là.
Ouais.
Écoute, ils le prennent personnel. Simon Olivier, comment tu vois la situation?
C'est vraiment un argument que j'utilise jamais, mais je pense que l'entraîneur, c'est plus la bonne personne. Je comprends pas que l'entraîneur n'a pas été congédié. Et Carl Dubus, c'est un DG très, très patient avec ses entraîneurs. Souvenez-vous de tous les insuccès des Maple Leafs, année après année, après année, après année, au premier tour, que ça marchait jamais. Et il a jamais congédié Sheldon Keefe.
Il a souvent été congédié, surtout
en tant que Sidney Crosby et Mike Sullivan, justement, ils ont une excellente relation. Ben, ils s'appellent le soir quand ils regardent des games.
Peut-être que c'est un problème, justement.
Probablement.
Écoutez bien, il y a 4 futurs membres du temple de la renommée sur l'avantage numérique des Pingouins sont dans les 3 ou 4 pires équipes de la Ligue. C'est pas normal. Cette équipe-là a pas été bien coachée. c'est clair, là. Il n'y a pas assez de profondeur en attaque, il n'y a pas assez de profondeur en défense. Je pense que Jarry est un gardien de but qui fait la job, mais cette équipe-là peut pas. C'est pas juste le fait qu'ils ne sont pas dans le portrait des séries, c'est des confitures une après l'autre après l'autre. Quand le Canadien a joué à Pittsburgh la semaine dernière ou il y a deux semaines, là, les Penguins n'ont pas livré un bon match. Le matin, il avait dit on est en mode série. C'était pas du tout une équipe en mode série, c'est une équipe qui manque d'inspiration. On peut être pour ou contre Eric Carlson, mais l'échange de Carlson a permis de faire le ménage. Et tantôt, Antoine en a parlé. Ça a été la même journée. Ruta, Granlund, Petrie, trois mauvais contrats des joueurs vieillissants dont Dubus a hérité, dont il s'est débarrassé. Maintenant, là, il y a Jeff Carter qui arrive en fin de contrat, enfin. Ricard Raquel, c'est un joueur qu'il faudrait qu'il s'en aille. Riley Smith, ça n'a pas marché à Pittsburgh. Donc, je pense qu'avec le plafond qui monte en plus, le plafond salarial, je pense qu'il y a de l'espoir. Mais Dubus, il faut qu'il prenne acte de ce qui s'est passé. Et j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à croire que sans un changement d'entraîneur, cette équipe-là peut juste continuer. Parce que ça revient un peu à la fameuse idée de dire toujours faire la même chose puis attendre des résultats différents. Ben là, la formule est probablement arrivée au bout. Puis tu sais, Sullivan, il y a eu une belle ride à Pittsburgh. Là. C'est lui qui a eu la Coupe Stanley, les deux Coupes Stanley consécutives en 2016-2017. Puis des fois, quand un entraîneur devient trop proche d'un joueur, ben c'est pas nécessairement une bonne formule parce que justement est-ce qu'il y a encore le recul nécessaire pour voir c'est quoi les lacunes de son équipe. Évidemment que Sidney Crosby, il y en a pas de lacunes, c'est correct, là, c'est un joueur parfait, mais après ça c'est quoi le regard que sur le reste du club. Il faut qu'il y ait un changement, ça c'est sûr à Pittsburgh. Est-ce que ce sera le coach, est-ce que ce sera ailleurs, mais il faut que quelque chose change parce que cette formation là fera pas les séries cette année et les ferait pas l'année prochaine non plus.
Mais ça va leur prendre un coup de pouce des propriétaires pour ça parce que Mike Sullivan, son nouveau contrat entre en vigueur la saison prochaine. Trois ans à 5,5 millions selon Cap Friendly. 5,5 millions par année pendant trois ans, donc jusqu'en 2027. Alors, sort le chéquier.
Alors, bravo Kyle Dubas. Bonne chance. Et puis, on vous regarde aller avec les Penguins de Pittsburgh. Ça complète ce balado sortie de zone, 43e épisode de cette 5e saison. Gros merci à Guillaume Lefrançois. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Gérard.
Simon-Olivier Larange, c'est le temps d'aller faire dodo. Là. C'était une grosse journée. Merci beaucoup, Simon-Olivier.
Merci.
Toujours un plaisir. Antoine Roussel, merci d'avoir été là.
Un réel plaisir de partager un début de soirée avec vous autres, les gars.
Merci beaucoup, Antoine. T'as belle fun. Nous, on se reparle lundi, le 11 mars.